France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je m'appelle Freddy Eichelberger, ou Eichelberger selon votre culture. Je suis né le 14 juin 1961 à Paris 17e et je suis musicien.
Freddy Eichelberger, vous évoquez les figures maternelles et paternelles et vous évoquez les voyages et l'avion. Donc tous les deux travaillaient à l'aéroport, dans l'univers des avions.
Oui, ma mère travaillait à l'aérogare des Invalides, à l'époque où on enregistrait aux Invalides. Et donc ma mère travaillait au sol et mon père donc était steward. Et il a vu la petite brune là, qui était sur le trottoir d'enregistrement. Et puis ben, voilà, c'est devenu une histoire d'amour. Et... Et voilà.
Il a disparu comment ?
Eh ben, l'avion s'est écrasé dans le Sahara. C'était un avion d'Air France. Donc il est mort en avion. C'était donc une tragédie, hein, 85 morts. Et évidemment, les gens. Donc il y a eu des commissions d'enquête, etc., etc. Ma mère, ensuite, est devenue hôtesse de l'air. Je pense qu'elle voulait le retrouver là-haut. Et ce qui est marrant, c'est que à l'époque, les caravelles qui allaient sur l'Allemagne, sur Berlin, atterrissaient à Tegel. Et Tegel, à l'époque, c'était l'aéroport militaire français. Et donc, les équipages d'Air France connaissaient bien les militaires de la base. Et quand le commandant de la base avait su par ma mère que mon père était mort dans cet avion-là, il avait blêmi, il lui avait dit « Écoute, je devrais peut-être pas te le dire, mais apparemment c'est une erreur de tir de l'armée. » Et donc j'en étais resté là. Il se trouve que moi j'étais beaucoup plus tard externe à l'hôpital Bégin, qui était hôpital militaire. Moi j'étais pas militaire, mais j'étais envoyé par la fac. Il y avait là un colonel responsable des services de sécurité de l'armée de l'air. Et j'allais tous les matins dans sa chambre, on fumait une cigarette. À l'époque, on fumait encore dans les hôpitaux. Et je lui mesurais le ventre, parce que bon, le pauvre, il avait une ascite abdominale, parce qu'il avait une cirrhose. Et il se trouve qu'il y a eu l'histoire du Boeing 747 coréen qui avait été descendu par les Russes, parce qu'il survolait l'espace soviétique. Et donc 350 morts, je crois, enfin une tragédie terrible. Donc j'arrive le matin dans sa chambre, et puis j'étais choqué comme tout le monde. Je lui dis, vous avez vu le Boeing coréen ? Et là, il me dit, mais mon pauvre, si tu savais, dans mon bureau, j'ai tous les dossiers sur tous les accidents d'avion depuis l'histoire de l'aviation. Alors ça a fait tilt. Alors je lui ai dit, ben écoutez, mon père s'est tué en avion dans un avion d'Air France qui s'est écrasé. On nous a dit, enfin apparemment, ça serait peut-être une erreur de tir de l'armée. Bon, moi, mon père, c'est loin. Je veux dire, maintenant, j'ai 25 ans, je ne l'ai pas connu, mais enfin, j'aimerais bien savoir. Enfin, je lui dis vraiment tout à fait honnêtement. Et sur ce, il téléphone devant moi pour qu'on lui amène le dossier.
C'était 1961, cet accident.
Oui, 61, en pleine guerre d'Algérie. Et alors, dans la liste des passagers, il y avait le gouverneur de la France d'outre-mer et deux ministres africains. Voilà, et un jour, je rentre dans sa chambre, je le vois blêmir. Et je lui dis, ben, ça y est, vous savez, c'est ça, c'est une erreur de tir. Et là, grand blanc, et il me dit, écoute, l'avion a été descendu sur ordre. Voilà. Mais sur ordre de qui ? Ça, vraiment, je peux pas te le dire. Alors moi, qui étais déjà un écorché, qui supportait pas la hiérarchie et qui avait du mal avec, avec tout ça, à 25 ans, j'ai été touché dans ma chair par le terrorisme politique. Moi, maintenant, je ne sais pas si je suis vraiment en paix avec ça, mais disons que c'est lointain, c'est tellement lointain.
Mais vous avez grandi avec ce mystère, parce qu'il y avait un mystère.
Ah ben, il y avait épais. Un mystère, oui, bien sûr, bien sûr.
Il avait 24 ans quand il est mort.
24 ans, oui. Oui.
Thank you. qui vous a parlé de votre père? Est-ce que votre mère vous en parlait beaucoup?
Très peu. Elle évitait? Enfin, un peu, mais vous savez, c'est difficile parce que quand quelqu'un meurt comme ça à 24 ans, dès que les gens commencent à évoquer son souvenir, ils se mettent à pleurer. Enfin, donc j'ai... Et puis c'était... Mon père était devenu une espèce d'image d'Épinal. Et j'en ai beaucoup plus appris par la suite, par des amis que j'ai retrouvés, qu'on avait perdu de vue parce qu'ils habitaient soit aux États-Unis, soit en Angleterre, mais qui est Marie-Claire de Mangel, qui maintenant s'occupe du château d'Assas. Alors, et ça, c'était dingue. C'était absolument dingue. Et là, en une heure ou deux de discussion avec Marie-Claire et François, son mari, j'en ai appris 100 fois plus sur mon père, parce que c'était ses copains, ses amis. Et donc, on raconte pas la même chose à sa famille et à ses amis aussi. Donc, là, j'en ai appris plein. Et en plus, et alors, ce qui est drôle, c'est que donc, pour Marie-Claire, j'étais la famille un peu. Et c'est que, peut-être au bout de 4-5 ans, qu'un jour, elle me dit: mais au fait, ça te ferait peut-être plaisir de faire un concert de clavecin. J'ai dit, bah oui. Et donc, je me suis retrouvé à faire un concert de clavecin à ça. C'est, alors là, ça a été une émotion, enfin, que vous imaginez aisément. C'était deux mondes qui se remettaient en place.
Et gamin, vous étiez allé dans ce château?
Oui, mais j'avais aucun souvenir. J'étais tout petit. Mes premiers pas. Donc, j'y suis allé à l'âge de, bah, je sais pas, 15 ou 17 mois, ou je sais pas, puis plus jamais.
Ouais.
Donc le château d'Assas, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est un château où il y a un clavecin historique.
Oui, Scott Rossi a joué beaucoup.
Voilà, c'est ça. Où donc la mère de Marie-Claire, Simone de Mangel, avait acheté ce clavecin et du coup a accueilli Scott Ross qui a habité là-bas ensuite, etc. Ça a été un des hauts lieux du clavecin.
Et alors ce concert au château d'Assas,
ce clavecin. Ah là là, c'est un clavecin magnifique. C'est vraiment un clavecin magnifique.
On comprend que Scott Ross y est enregistré.
Oui. Et puis c'est drôle, vous faites un concert dans la même maison que celle où vous avez fait vos premiers pas. C'est drôle quand même.
La boucle qui se referme.
Ah, oui. C'était presque une boucle de légitimité, vous voyez. Je jouais dans l'endroit où j'avais fait mes premiers pas. Donc, la boucle était bouclée, j'étais ce que j'étais, j'étais à la bonne place.
Oui.
C'est-à-dire mes choix de vie rejoignaient ma petite histoire.
Alors, Freddy Eschelberger, vous êtes né donc à Paris. Il y a eu une belle parenthèse sur l'île de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Ensuite, il y a eu évidemment ces périodes de vacances en Alsace, chez les grands-parents paternels. Et puis ensuite, vous retournez à Paris contre votre gré, et là, vous arrivez en pension. Alors, la pension, ça a duré longtemps,
Ça a duré 6 ans, jusqu'au bac.
Jusqu'au bac.
Ouais.
Ouais. C'était long.
C'est long, ouais. C'est long, mais il y a eu plusieurs stades, en fait. Il y a eu le moment où j'ai fini par m'adapter. Mm-hmm. Parce que c'est un peu une jungle. Hein. Vous savez, ces expériences qu'on décrit avec les rats, où il y a 6 rats qui doivent aller nager pour ramener de la nourriture, etc. Et donc, il y a les dominants, les dominés, les souffres-douleurs, les indépendants. Et ben, en fait, en pension, c'est exactement comme ça.
Mm-hmm.
Vous avez les souffres-douleurs, les dominés, les dominants et les indépendants. Alors moi, j'étais indépendant. Parce que de toute manière, j'aurais pas pu être dominant. J'ai toujours été maigrichon. Bon, j'étais quand même suffisamment grand pour pas être le petit maigrichon. J'étais le moyen maigrichon, quoi. Et puis surtout, j'ai développé en fait des techniques de passe-muraille. C'est-à-dire qu'en fait, on ne me voyait pas. En fait, je crois que c'est des comportements qu'on apprend... de regarder quelqu'un avec un regard complètement transparent. J'ai fini par faire mon trou, en fait. J'allais à la chapelle quand je voulais, y compris le soir tard. Puis j'avais mes copains. Puis je crois qu'on avait une bande d'indépendants. J'allais dire fraudeurs. Enfin, on était un peu en marge. On se faisait pas piquer, mais On faisait un peu ce qu'on voulait, on était discret. On échappait à la hiérarchie entre élèves, c'est-à-dire qu'on s'appelait par son prénom, par exemple. Et s'appeler par son prénom, c'était quasiment... c'était une transgression de la loi de la pension, où chacun s'appelle par son nom. Voire on se faisait la bise, alors ça, vraiment... C'était un acte complètement antisocial.
Vous aviez réussi à enfreindre les codes, en fait.
Ouais. Donc j'ai quand même quelques bons souvenirs qui sont liés à ça, en fait. Ça m'a appris à résister. Du coup, ça m'a quand même rendu beaucoup plus dur que j'aurais aimé. J'ai mis, je pense, plus de 20 ans à quitter une espèce de méfiance et de dureté.
France Musique, les grands entretiens de Freddy Eschelberger.
Ma mère venait me voir le mercredi quand même souvent, parce qu'elle voyait quand même que je déprimais. Quoi. Et on a été voir le directeur des études. Donc moi j'y suis allé, mais j'allais dire la fleur au fusil. C'est ça. C'est-à-dire j'y allais en disant, tu vas voir connard, elle va enfin me dire que je m'en vais. C'est fini pour moi. On est au mois d'avril ou mai, et voilà, dans 2 mois c'est fini, pour toujours la pension, etc. Et donc on arrive devant le directeur des études en question, et il me dit, bon Freddy, je sais que tu veux partir, alors je dis oui. et il dit, mais tu sais, tu devrais réfléchir quand même, parce que tu sais, ici tu as quand même accès à une éducation exceptionnelle. C'est quand même une chance que tu... Alors moi, je l'écoutais, je dis, oui, cause toujours. Enfin, vraiment, j'étais sur un petit nuage, quoi. Et là, ma mère se tourne vers moi et me dit, oui, mon chéri, tu sais quand même, tu devrais réfléchir. Et là, probablement à tort, mais ma vie a basculé en 10 secondes. C'est-à-dire que j'ai pensé, bon, bah, en fait, elle veut plus de moi. Et puis, ben oui, c'est vrai, c'est logique, en fait. Elle a rencontré mon beau-père, ils ont ma sœur. Moi, j'ai plus rien à faire dans cette famille. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, bon, mais je vais m'adapter. Voilà. Donc, dès la semaine d'après, j'ai dit à ma mère, ben, c'est pas la peine de venir me voir le mercredi, maintenant, ça va aller. Et ça a été. Et c'est là que je suis devenu, au lieu d'être le... Je suis passé du pauvre lapin à sa maman, au passe-muraille adulte. Je suis devenu adulte à 13 ans. Voilà.
Brutal.
Brutalement. En une semaine, je suis devenu adulte. J'ai appris à me comporter pour pas avoir d'emmerdement, à me fondre dans une société que je percevais comme hostile, et à trouver des points d'ancrage, des amis proches, des vrais. Quand je suis sorti de pension, je suis arrivé en fac. Le bol d'air, c'était extraordinaire, quoi. J'étais en fac de médecine, c'était merveilleux, enfin vraiment la liberté totale. Et j'ai cru sortir de la jungle pour arriver dans le monde des bisounours. Et j'ai mis quand même quelques années à comprendre que notre société, en fait, est quand même pas une société de bisounours, que c'est quand même une jungle, mais que ça se voit moins vite qu'en pension. Donc, mais j'ai quand même été un peu armé pour me défendre. À partir du moment où j'ai commencé à retrouver des hiérarchies et des choses comme ça, auxquelles, évidemment, je suis complètement allergique à la hiérarchie.
Alors, les premiers concerts de musique ancienne, c'est après le bac.
Ouais.
Vous découvrez la musique ancienne à cette époque-là.
Ouais.
Et néanmoins, vous décidez de faire des études de médecine.
Oui. J'adorais la musique, mais ça m'était pas du tout venu à l'idée d'en faire un métier. C'est drôle, hein. J'avais un peu le complexe du docteur Schweitzer, hein, grâce à mes grands-parents paternels qui avaient des idéaux très élevés, de don de soi, de partage, enfin, c'était des chrétiens, mais des vrais, quoi. Enfin, et du coup, moi, je voulais, mon rêve, c'était d'être médecin, pasteur et organiste, quoi, en gros, hein, et de partir en Afrique, enfin, comme le moustachu, ouais, quoi. Ouais. Et puis,
un rêve humaniste.
Oui, voilà. Et donc la médecine, oui, j'avais très très envie, ouais, très très envie. J'ai fini par faire de la musique parce que je faisais le plus de musique possible en plus de mes études. Et à partir du moment où vous êtes externe, donc vous êtes à l'hosto tous les matins, ensuite vous avez un sandwich, ensuite vous allez en cours, ensuite j'allais quand même faire une heure d'orgue. Je rentrais chez moi épuisé, et puis le soir, ben, soit je révisais mes cours, soit je sortais avec les copains quand même pour pas devenir fou. Et je rebelote, se lever tôt le matin, l'hosto, etc., plus les gardes, parce que service de chirurgie, donc les gardes d'urgence de 24 heures, où on recoue les gamins, parce que j'étais à l'hôpital Trousseau. Oui, des fois, vous avez 12 gamins que vous recousez de suite, enfin, bon, c'est quand même, c'est pas rien, enfin... Et j'aimais bien faire ça, et en fait, j'ai pété un câble. J'en faisais trop. Et un jour, c'est Claire Michon, je lui dois ça, qui...
Claire Michon, flûtiste.
Flûtiste, qui a sonné chez moi, et qui m'a dit, bon, écoute, voilà, il faut que je te parle. Moi, j'ai 3 frères et sœurs qui sont médecins, donc je sais ce que ça veut dire, et ce que ça implique. Moi, je suis musicienne et enseignante, et je sais, et je peux te dire, en fait, ce que tu as la capacité de devenir musicien professionnel, mais c'est tout de suite. Parce que si tu veux faire la médecine que tu dis que tu veux faire, ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, plus de musique pendant 5 ans, et l'internat, et etc. etc. Mmh. Et elle m'a dit, donc, maintenant tu vas arrêter de nous faire chier, tu vas choisir, et c'est bon. Quoi. Et alors ça a été un choc, parce que j'ai admis qu'il fallait faire un choix. Mmh. Et le choix, au bout d'une semaine, s'était plié. J'avais jamais fait de conservatoire à plein temps, de choses comme ça, enfin... Et c'est là que, 6 mois plus tard, je suis parti à Lille. Et que là, je suis resté 3 ans et j'ai fait que ça, que ça, que ça, que ça. Mmh. Avec beaucoup de bonheur. Et puis, ben voilà.
Études de l'orgue d'abord, puis du clavecin.
Alors je faisais, donc j'allais au départ pour être dans la classe de Jean Boyer, sachant que ma première professeure à qui je dois énormément, c'est Odile Bayeux, qui cadrait parfaitement, même si c'est quelqu'un qui n'est pas facile, elle le sait, peut-être qu'elle entendra cette émission. mais je lui dois vraiment énormément, c'est elle qui m'a appris le swing, comme disait ma grande cousine Jacqueline, qui m'a appris ce que c'est qu'une que de pulser, en fait.
C'est important, ça.
Pulser et toucher. Toucher un clavier. Le toucher, la pulsation. Et chanter. Et ensuite, à Lille, Jean Boyer, donc, qui était absolument merveilleux. Et qui, lui, vous donnait les moyens d'arriver au bout de vos idées, en fait. Et ça, c'était... extraordinaire. 3 ans avec Jean Boyer, c'était vraiment extraordinaire. Et du coup, enfin, un bain de musique ancienne. Alors, j'avais déjà commencé, parce que j'ai eu quand même la chance de commencer le clavecin avec Blandine Verlet, ce qui n'est pas rien.
Quelle sorte de professeur c'était ?
Blandine ?
Oui.
Quelle sorte de professeur ? Je crois qu'elle voulait apprendre l'impalpable aux gens. C'est-à-dire, ce qui circule entre les notes et grâce aux notes. Elle avait toujours des phrases qui vous restent gravées à vie. Genre, oui, le 3 contre 2, en fait, c'est jamais vraiment 3 contre 2. Ça, c'est quelque chose de plus subtil que ça. Enfin, donc, extrêmement exigeante et très, très bienveillante aussi. Mais il y a un cours, en plus, moi, à l'époque, j'étais en plein marasme. Hein, j'étais sur le point de laisser tomber la médecine. Je faisais de l'orgue, je voulais faire de la musique de chambre, je faisais aussi un peu du clavecin avec elle. Enfin, donc le clavecin, ça passait toujours un peu en dernier, quoi. Et puis, un jour, je la mets dans une pièce, et puis elle me regarde avec ses immenses yeux verts, là. Elle m'a dit, écoute, Fred, ah, puis tant pis, je te le dis. Écoute, Freddy, tu n'aimes pas travailler. Tu n'es pas fait pour ce métier. Fais-toi entretenir par un riche antiquaire et fais de la musique pour ton plaisir. Voilà. Donc, alors, vous prenez ça en pleine poire.
Ça fait réagir.
Vous prenez ça en pleine poire et puis, j'ai expliqué. J'ai dit, ben, si, là, en ce moment, j'ai quand même, j'essaie de passer un prix d'orgue dans un mois et puis, ah oui, d'accord. Bon, d'accord. Voilà. Et après, je me suis dit, si ça se trouve, elle avait raison. Mais c'était ça, et à la fois, elle était complètement tout à vous quand vous lui jouiez quelque chose. Et ça allait très très haut. Et en fait, le clavecin, j'avais choisi le clavecin pour faire de la musique d'ensemble. Être organiste tout le temps dans mon coin, ça ne m'intéressait pas vraiment. Moi, je voulais faire de la musique d'ensemble, c'était ça qui me touchait le plus. Et donc, je faisais du clavecin pour faire du continuo. C'est-à-dire, pour moi, le clavecin, c'était un truc utilitaire. Enfin, c'était pas. Et d'ailleurs, j'aime bien le clavecin. Enfin, j'aime surtout le clavecin italien. C'est le son qui me touche particulièrement.
Oui.
Mais pour moi, les instruments de musique, ça a toujours été un moyen, en fait, plus qu'une fin.
Moyen de faire de la musique avec d'autres.
Voilà.
Oui.
Voilà. Peut-être plus de tendresse pour l'orgue, peut-être à cause du vent.
Ah oui.
À cause du vent et de l'espace, peut-être. Donc je suis allé à Lille et j'ai eu beaucoup de bol parce que donc il y avait Noël Speed qui enseignait le clavecin et tout un tas de professeurs qui venaient intervenir là, Ariane Morette qui nous faisait faire de la musique renaissance, Marcel Pérez qui venait faire de la musique médiévale et comme dans toutes les premières années des départements de musique ancienne, il y a tous les gens de la région qui sont intéressés qui viennent. Mmh. Voilà, donc là je me suis fait des amis à vie. Ça a été une période extraordinaire. Mmh. C'était fluide. Fluide, solidaire. Et les amitiés qui datent de cette époque-là, elles sont indissolubles. Indissolubles.
Pour illustrer la période lilloise de Freddy Eschelberger et sa grande joie à faire de la musique avec d'autres, un extrait de Madonna in Pietà de Roland de Lassus avec les musiciens de l'ensemble Douce Mémoire, direction Denis Rézindadre, au clavecin bien sûr Freddy Eschelberger. C'était le deuxième épisode de ces grands entretiens, une émission réalisée par Marie Groux avec Benjamin Thuot, Valérie Lavalard, Pierre-Henri, Aude Vassan et Flora Sternadel. La suite de ce portrait demain, à la même heure, podcast et réécoute sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.